rubrique « Russie 1917, la révolution au fil des semaines ». Les ouvriers répondent au sabotage des industriels. Trois mois après la révolution de février 1917, la poursuite de la guerre et la préparation d'une nouvelle offensive provoquent de graves privations dans les villes et accélèrent le délabrement économique. Espérant briser la combativité des ouvriers, les industriels se livrent au sabotage de la production et à la fermeture de leurs usines au moindre prétexte. Mais c'est l'inverse qui se produit. Dans chaque usine, dans chaque centre industriel, le sabotage des patrons provoque l'intervention des ouvriers. De fait, ils imposent leur contrôle sur la production. Prenant conscience des tergiversations des dirigeants des soviets, ils rejoignent les bolcheviks. Dans l'histoire de la révolution russe, Trotsky analyse ce bras de fer. Citation. La bourgeoisie en son ensemble s'engageait dans la voie du défaitisme économique. Les pertes et dommages temporairement subis, du fait de la paralysie économique, étaient, à ses yeux, les faux frais de la lutte contre la révolution qui menaçait les bases de la « entre guillemets culture ». En même temps, la presse bien pensante, de jour en jour, accusait les ouvriers de saboter insidieusement l'industrie, de dérober les matériaux, de brûler inconsidérément le combustible pour faire obstruction. La fausseté des accusations dépassait toute limite. Le Conseil de l'industrie unifiée, organisation patronale, invita ses membres à fermer les entreprises isolément en recherchant des prétextes plausibles. Le plan du lock-out larvé fut appliqué avec une remarquable méthode. Après avoir préparé la situation politique, les industriels passèrent de la parole à l'action. Dans le courant de mars et d'avril, 129 petites entreprises, comptant 9000 ouvriers, furent fermées. Dans le courant de mai, 108 entreprises avec le même nombre d'ouvriers. En juin, l'on ferme déjà 125 entreprises, comptant 38 000 ouvriers. En juillet, 210 entreprises jettent dans la rue 48 000 ouvriers. Le lock-out s'étend en progression géométrique. Fin de citation. Devant la catastrophe et la pression des ouvriers, le comité exécutif des soviets supplie le gouvernement, citation, de prendre sur lui la tâche d'une organisation rationnelle de l'économie publique et du travail. Fin de citation. Ce qui faisait dire à Lénine, citation, programme magnifique, et un contrôle, et des trusts étatisés, et la lutte contre la spéculation, et le service obligatoire du travail. On est obligé de reconnaître le programme de, entre guillemets, l'affreux bolchevisme, car il ne peut y avoir d'autres programmes, d'autres issues devant le krach épouvantable qui menace effectivement. Fin de citation. Trotsky poursuit, citation, toute la question est, cependant, de savoir qui réalisera ce magnifique programme. Serait-ce la coalition ? La réponse vint immédiatement. Un jour après l'adoption par le comité exécutif du programme économique, le ministre du Commerce et de l'Industrie donna sa démission et sortit en faisant claquer les portes. Les grèves se multiplient. Elles prennent un caractère particulièrement violent dans les couches ouvrières les plus arriérées et les plus exploitées. Les blanchisseuses, les ouvriers teinturiers, les tonneliers, les employés du commerce et de l'industrie, les ouvriers du bâtiment, les bronzeurs, les peintres, les manœuvres, les cordonniers, les artisans du cartonnage, les ouvriers charcutiers, les menuisiers font grève, successivement, pendant tout le mois de juin. Pour les ouvriers avancés, il devenait de plus en plus clair que les grèves économiques partielles, dans les conditions de la guerre, du désarroi et de l'inflation, ne pouvaient apporter de sérieuses améliorations, qu'il fallait modifier de quelque façon les bases mêmes. Le lock-out n'ouvrait pas seulement l'esprit des ouvriers à la revendication d'un contrôle sur l'industrie, mais les poussait à l'idée de la nécessité de mettre les usines à la disposition de l'État. Cette déduction paraissait d'autant plus naturelle que la plupart des usines privées travaillaient pour la guerre et qu'à côté d'elles, il existait des entreprises d'État du même type. La croissance des grèves et, en général, de la lutte de classe augmentait presque automatiquement l'influence des bolcheviks. Toutes les fois qu'il s'agissait de leurs intérêts vitaux, les ouvriers comprenaient bien que les bolcheviks n'avaient pas d'arrière-pensée, qu'ils ne cachaient rien et que l'on pouvait compter sur eux. Aux heures de conflit, tous les ouvriers, sans parti, socialistes révolutionnaires, mencheviks, se dirigeaient vers les bolcheviks. à la conférence des comités de fabrique et d'usines de Petrograd et de la banlieue, au début de juin, 335 voix sur 421 se prononcèrent pour la résolution bolcheviste. Fin de citation.